ce qui s'est passé au Portugal, c'est pas simplement l'effondrement d'un régime autoritaire de nature fasciste impliqué dans une guerre coloniale qui l'a complètement il s'est décomposé dans la guerre coloniale. C'est pas simplement ça. C'est le passage après par les forces démocratiques traditionnelles, etc., vers un régime parlementaire. C'est aussi, il y a eu un mouvement, une révolte sociale, un mouvement social très fort qu'on a appelé aussi la révolution portugaise à l'époque, qui a duré presque 2 ans. Et c'est sur l'écrasement de ce mouvement qu'on a vraiment instauré le système parlementaire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, un peu de mots, bon, ça, je pense qu'en lisant ce chapitre, bon, tu verras, je ne sais pas si tu partageras ou non mon analyse, mais je l'aborde de ce point de vue-là. Une fois que le vieux régime s'est effondré par cette révolte militaire, on ne peut pas l'oublier, la révolte d'une armée de conscrits. C'est pas une révolte, c'est pas un putsch militaire. Oui, c'est-à-dire, voilà. Le putsch a été organisé par les militaires.
Mais là, c'est effectivement, c'était pas l'armée classique.
Voilà, il y avait d'ailleurs des corps classiques dans l'armée, qui d'ailleurs après ont été utilisés pour réinstaller un ordre démocratique traditionnel, etc. 2 ans après. Mais l'essentiel de la révolte, même militaire, ça a été le peuple. Et tout ça, dans l'espace de moins d'une semaine, a éclaté. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement social réel avec l'occupation des entreprises, constitution de comités de travailleurs, des assemblées générales partout, des discussions, la sortie de tout le débat politique, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Les premières critiques à l'armée, qu'est-ce qu'on va faire avec l'armée, est-ce que l'armée est de notre côté, pas de notre côté, etc. Donc, et ça va durer pendant plus d'un an dans la société portugaise, avec la formation d'un réseau de comités de travailleurs hyper puissants dans les grandes entreprises, qui étaient déjà très présentes à l'époque au Portugal, encore plus qu'aujourd'hui, parce que tout ça, depuis, beaucoup de ces entreprises ont fermé. Et là, il y a eu l'apparition d'une tendance qu'on appelait au Portugal la partidaire, c'est-à-dire en dehors des partis, des organisations partidaires, où il y avait quand même la présence des maoïstes de façon assez forte, mais des maoïstes plutôt teintés de l'idée de la révolution culturelle chinoise, les organisations de base, etc., tous ces trucs-là. Et ce courant partidaire, très rapidement, s'est affronté aux forces politiques traditionnelles que les militaires ont appelées au pouvoir. Le mouvement ouvrier portugais a été, sa matrice a été quand même le syndicalisme révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme. Jusqu'aux années 20-30, la CGT portugaise était moitié syndicaliste révolutionnaire avec une présence assez grande des anarcho-syndicalistes. Et ils étaient très liés à la tradition ibérique. Bon, ils sont ibériques. Donc, d'ailleurs, toute cette période qui est très riche, puisque le mouvement ouvrier portugais, qui a été majoritairement donc de filiation anarchiste, il a non seulement marqué beaucoup la culture du premier quart du XXe siècle, mais il a aussi établi des liens très forts avec le milieu anarchiste espagnol et andalou, et moins la Catalogne parce que c'était plus loin, mais bon, il y avait quand même, ils avaient une vision très fédéraliste de la péninsule ibérique. D'ailleurs, c'est très marrant, je remarque souvent, les anars portugais ne parlaient jamais du Portugal, ils disaient la région portugaise. Parce que pour eux, c'était une des régions fédérales de ce qui devrait devenir une péninsule ibérique organisée sur un modèle fédéraliste, communiste, anarchiste. Bon. Et le journal de la CGT portugaise qui s'appelait Batalha, c'est-à-dire la Batalha, enfin bon, c'est presque le même mot qu'en catalan, ce journal était pendant une période parmi ceux qui avaient plus fort tirage au Portugal. Il était lu dans tous les petits bleds par les gens qui savaient lire. En général, c'était, je sais pas, le coiffeur, le cordonnier local qui lisait. Il lisait collectivement dans la rue ou dans sa boutique à d'autres personnes. Et il a eu une importance énorme, y compris dans les écrivains de l'époque, qui sont malheureusement peu connus à l'extérieur, comme Fred Castro, qui a failli avoir le prix Nobel, qui était un grand ami d'écrivains français, et d'autres, Kylian Ripper, bon, des gens qui ne sont pas connus aujourd'hui, mais c'est, et donc, où je voulais en venir, c'est que cette culture anarchiste avait beaucoup marqué tout le sud du Portugal. Surtout ces milieux, ces villages de salariés agricoles où ils avaient une présence très grande, et avaient aussi dans les mines aussi, où il y avait plusieurs mines dans le sud du Portugal où ils étaient très implantés. Et le Parti communiste portugais est né de l'anarchie, du mouvement anarchiste. C'est un des seuls partis communistes qui a été créé à partir d'une scission maximaliste à l'intérieur de la CGT anarchiste. Et au début, dans les premières années, pratiquement jusqu'au milieu des années 20, même plus tard, le PC portugais avait une culture, on peut dire, anarchiste très forte. Et les idées comme l'action directe étaient très présentes dans leur façon de faire, d'agir, les idées d'assemblée, de démocratie à la base, etc. Et c'est plus tard, déjà dans la clandestinité, que le Comintern a fait le nécessaire pour bolcheviser le Parti communiste portugais en expulsant toutes les tendances, tous les personnes, les individus, les personnalités qui étaient proches de l'anarchisme, qu'il considérait comme l'ennemi principal d'ailleurs à l'époque, il l'écrivait. La personne qui a fait ça, c'est Álvaro Cunhal, qui est devenu après le dirigeant du Parti communiste. À l'époque, il était à peine un jeune étudiant, mais c'est lui qui a réalisé la bolchevisation du Parti communiste portugais par l'expulsion des tendances anarchistes.